Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel préparé avec Corinne Amar, réalisé par Vincent Abouchard avec ce matin la prise de son Sylvain Latu. Et notre invité ce matin est David Lynx, auteur, compositeur et chanteur de jazz. Son dernier album Skin in the Game vient de sortir chez Crystal Records. Il marque les 40 ans de sa carrière, une carrière riche en rencontres, en expérimentation et en audace.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Slipping away, far from the hectic pace, we leave behind the things we could not face for days and miles, standing in line. I watch my day break, drifting about, avoiding walks of shame. Whispering proud, repeating my own name. Beauty's on fire, the world is loud. But here I can see, I'm on a sugar high. With love kept deep inside, flowers blossoming wild. Laughter lights up the night, we run from fear. Nothing we will shield. There is no end in sight, just a horizon. Here I can see beyond the tallest tree. Here I can read the book of old for free. I turn a page, but not on you. Here I can see.
Here I can see, extrait de votre dernier album Skin in the Game. Bonjour David Lynx.
Bonjour.
Vous êtes belge, il faut bien le préciser, vous êtes belge. Vous vivez à Paris et vous chantez en anglais. Et cet album marque les 40 ans de votre carrière. Il est vrai que vous avez commencé très très jeune, à l'âge de 15 ans. Alors justement, comment on traverse le temps avec une passion, la passion musicale en ce qui vous concerne? Qu'est-ce qui évolue ou comment on évolue avec cette pratique artistique qu'est la musique?
Je crois que c'est la passion. Il faut donner une structure. Je crois qu'il faut donner une structure qui s'appelle carrière. C'est pas un joli mot, mais j'ai senti très jeune que je voulais faire ça toute ma vie. J'ai voulu devenir chanteur quand j'avais 5 ou 6 ans. J'avais très vite compris qu'il fallait une structure, construire une structure pour ça, pour traverser une vie. J'avais pas de référence européenne, il n'y avait pas de chanteurs de jazz masculins en Europe. Il y avait des musiciens de jazz et chanteuses depuis les années 40-50, mais des chanteurs de jazz masculin européen, j'en connaissais pas. J'avais d'exemples américains. Et puis j'avais un exemple, Mark Murphy, avec qui je jouais à la batterie. Donc je crois que traverser le temps, c'est à chaque fois revoir sa place dans le monde avec humilité, avec qui on est, qu'est-ce qu'on veut raconter, et aussi trouver la façon la plus simple et plus claire pour la raconter. Et aussi, je crois que comme Miles, ce que j'ai appris de quelqu'un comme Miles Davis, c'est s'adapter. En gros, Miles n'a jamais changé sa façon de jouer entre 48 et 91. La façon de s'exprimer, il n'a pas changé. Il a changé. Avec quoi il entoure sa musique. Mmh. Et je crois que ce qui communique la musique, c'est le rythme. Pour moi, le rythme, c'est le ballon qui fait qu'on voit l'air. Et l'air, c'est la mélodie, l'harmonie et le tempo. Mmh. Mais le rythme, c'est ce qui rend tous ces éléments visibles. Et chaque époque a son rythme spécifique. Aujourd'hui, les bâtiments sont plus hauts, les avions volent plus vite, mais par contre beaucoup plus silencieusement. Donc voilà, je crois que c'est utiliser le rythme de chaque époque pour pouvoir continuer à peaufiner la, pas la même histoire, mais comme la continuité de l'histoire qu'on est.
Et que deviennent alors les rêves d'autrefois? Je suppose que quand vous étiez jeune, vous aviez des rêves à accomplir.
Je crois que le rêve initial, c'est le tronc et les racines. Et puis les rêves se modifient et ça, ce sont les branches de la, du même arbre. Mais c'est vrai que les rêves se modifient ou il y a des rêves qui s'ajoutent. Moi, je voulais toujours être le plus grand chanteur du monde, pas pour écraser les autres, mais pour moi, pour être le mieux. Et aussi, je me rappelle, j'avais fait à la ressortie du disque que j'avais fait avec James Baldwin en 99, j'avais fait Nulle part ailleurs. Et Nagui est venu dans ma loge avant l'émission pour me demander. Vous rêvez de devenir quoi? Et moi, je me rappelle que je lui avais dit, parce que c'était vrai, je voulais devenir un homme grandir dignement. Et il m'a regardé comme si j'étais complètement taré, parce que normalement on dit vétérinaire ou astronaute quand on est jeune. Mais c'est vrai que moi, c'était la recherche de grandir avec quelque chose qui était digne à mes yeux.
Et c'était aussi pour être digne aux yeux de votre père, puisque votre père était aussi musicien, compositeur, producteur de radio.
Tout à fait.
Ouais. C'était aussi pour lui plaire ou il y avait cette
Non. Il y avait avant tout cette passion. Pour moi, à ce qui paraît, quand j'avais 3-4 ans, mon père, il mettait le disque de Sketches of Spain de Miles Davis pour ses amis. Et parce que ça avait l'effet sur moi que je m'arrêtais de jouer, voilà. Ce disque m'hypnotisait, et c'est Miles Davis qui m'hypnotisait.
Vous êtes tombé dans le jazz étant petit. Pourquoi avoir choisi tout de suite le jazz?
C'est pas tout de suite le jazz, parce que moi j'ai eu une période Claude François quand j'avais 7-8 ans.
Ah oui?
Et puis, oui, je pouvais être sur les genoux de Sonny Rollins quand j'avais 9 ans, mais pour moi, c'était déjà assez normal pour moi. Donc moi, les stars, c'était ce qui se passait, ce qui passait à la télé. Donc c'était mon père, il travaillait à la radio belge, il était compositeur, c'était surtout pour, c'était pas pour plaire à mon père, non, parce que mon frère et ma sœur, ils ont choisi autre chose. Mais il y avait cette, je sentais que je devais faire ça, c'était comme c'était, j'avais une vision, et c'est vrai qu'aujourd'hui, à 55 ans, c'est très étrange, parce que c'est toujours ce rêve-là, quoi. Je peux être chez moi en confinement, j'ai jamais autant écrit et composé que depuis mars, d'affilée. Et je me suis rendu compte récemment que j'avais choisi mes mentors, finalement.
Georgia. Georgia. The whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind de Ray Charles, puisqu'on parle de vos mentors, David Lynx. J'ai lu un peu partout, et vous le répétez à chaque fois que vous avez l'occasion de le rappeler, que c'est cette chanson qui vous a donné envie de passer, vous aussi, à un statut de chanteur et pas seulement de musicien.
Mon père avait un enregistrement pirate de Joue en Lépin, où Ray Charles jouait ce morceau avec batterie, lui à l'orgue et au chant, et un flûtiste très très lent. Et mon père avait l'habitude, quand il y avait des amis qui passaient, c'était des sculpteurs ou des peintres ou des musiciens ou des chorégraphes, quand ils partaient, c'était toujours aux 10h du matin, et je l'entendais chanter très fort avec cet enregistrement-là. Donc la voix de Ray Charles et la trompette de Miles Davis a été extrêmement présent dans mon inconscient même.
Mais vraiment, ça vous a donné envie de devenir chanteur à votre tour, d'écouter Ray Charles?
Oui, parce que Ray Charles, c'est beaucoup plus que la voix. Il y a un terme qu'on utilise dans le gospel américain, c'est anointment, to be anointed. Donc c'est pas la voix, mais ce pourquoi on l'utilise. Mmh. Et ça véhicule, chez Ray Charles, ça véhicule tellement de choses au-delà de la voix.
La culture américaine, et pour être très précis, noire américaine, est très présente dans votre carrière, David Lynch. D'ailleurs, la rencontre fondamentale de votre carrière, c'est pas avec un musicien, c'est avec un écrivain, James Baldwin, que vous lisez très jeune.
Mais j'ai très tôt, mais il y a plusieurs choses, parce que moi j'ai grandi dans une culture afro-américaine et européenne, et il n'y a aucune appropriation, quoi que ce soit, c'était toujours clair dans ma tête que j'étais blanc. Même mon parrain était Nathan Davis, j'ai habité chez Kenny Clarke, la cour des choses, j'ai rencontré Ella Fitzgerald, j'ai rencontré Sarah Vaughan, j'ai commencé à lire Baldwin. J'avais 10-11 ans quand je suis tombé sur une traduction en flamand d'un des livres à la maison. Et j'étais attiré par la pochette qui était un peu vert-pomme, la couverture qui était vert-pomme. Et c'est que, il faut dire aussi que moi, dans ma famille, du côté de mes cousins aussi, je sais pas s'il y a une origine lointaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais les cheveux très frisés. Donc déjà à l'école très jeune, j'étais toujours celui qui était, je pouvais être carteron, je pouvais être octoron, je pouvais être tunisien, je pouvais être brésilien. Quand on est un peu typé, donc du coup, j'ai l'impression que inconsciemment,
vous vous êtes retrouvé dans les écrits de James Baldwin. Incroyable.
Oui, ouais. Je me suis senti, je me reconnaissais là-dedans, voilà.
Et vous avez tout fait, surtout pour le rencontrer après.
Oui. J'ai écrit des lettres qu'on a retrouvées par après sa mort, quand on a mis de l'ordre dans la maison à Saint-Paul-de-Vence. Et Amsterdam, je jouais dans un club de jazz, la batterie, et le bassiste qui était surinamien, qui me disait, demain il y a une conférence de James Baldwin, donc c'était impensable que je pouvais pas assister à ça. Que je ne pourrais pas assister à ça, donc je suis allé le lendemain, donc comme à son habitude, il avait raté un avion, donc il avait une heure ou deux de retard, donc il y a des gens qui sont partis, donc j'ai pu avoir une place. Après il est parti, il y avait trop de gens autour de lui, donc je savais où était la conférence de presse à sa maison d'édition hollandaise, et je suis allé là-bas et je l'ai rencontré. Je me suis affalé parce que j'avais couru, j'avais pas pris le tram ou le métro, je suis affalé entre son frère et lui dans le canapé. Parce que la conférence de presse était déjà finie, quoi. Donc, et là, on s'est rencontrés.
Et vous êtes rencontrés. Et tout ça, bien sûr, va finir par un album, puisqu'en 1986, vous enregistrez un disque avec lui à partir de ses poèmes, Lover's Question.
Oui, c'est incroyable parce que j'étais. Je me rappelle toujours le premier jour quand je suis finalement arrivé à Saint-Paul-de-Vence, parce que je l'ai appelé un an plus tard. Il se rappelait sûrement plus de moi, parce que c'était. Je veux pas dire violent, mais disons que c'est assez intense chez nous à la maison. Ça c'est comme ça, c'est intense, voilà. Donc j'allais partir, je l'ai appelé un jour, je dis en gros j'arrive et je ne sais même pas s'il se rappelait de moi, je ne lui ai pas vraiment donné le choix, je crois. Donc je suis arrivé, je crois même avec deux valises. Mais un soir, on est assis en bas de la maison sur la terrasse sur le patio qui quand on sortait de sa pièce où il travaillait, et on avait un peu bu parce que j'essaie un peu de boire, quoi, un peu comme lui, comme ça, un peu de whisky, et moi j'étais déjà après un whisky, c'était fait. Et je lui ai dit est-ce qu'on fait un disque ensemble, et il m'a dit tout de suite oui, voilà. Et puis je crois qu'il avait mis un disque de Robert Johnson. Et après, avec les criquets, il a commencé à chanter Precious Lord, le gospel. Et je lui ai dit, et tu chanteras ça dans le disque aussi. Et il m'a dit, ok, je le ferai. Et puis le lendemain, je sais pas s'il croyait que c'était juste pas sérieux. Moi, c'est moi qui suis revenu à l'attaque, je sais pas quoi. Mm-hmm. Et donc, on a fait le choix des poèmes et il m'a laissé une liberté total, il m'a donné sa bénédiction et j'ai pu rassembler quand même avec Pierre Vandermal, qui est le frère de Jacques Vandermal, j'ai pu rassembler une belle brochette de musiciens qui étaient tous immédiatement partants.
James Baldwin, qu'on retrouve dans un extrait d'un long entretien donné à Éric Laurent pour France Culture en 1975, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans la série À Voix Nue. Et voilà ce qu'il disait à Éric Laurent. Écoutez bien, David Lynch.
Il a fallu que je me rende compte, que je faisais mon bilan, que je n'étais pas boxeur, je n'étais pas beau, je n'étais pas chanteur, je n'étais pas danseur. C'était drôlement coincé. Et la seule chose que J'ai pensé que peut-être je peux devenir écrivain. J'ai jamais pensé sérieusement à cela. Jusque j'ai quitté la maison. C'est-à-dire que j'avais 17 ans, j'ai quitté la maison. Il a fallu essayer de devenir écrivain.
Je n'étais pas beau, ni boxeur, ni chanteur, ni danseur. J'étais coincé. Alors, je pensais que je pouvais être écrivain. Et vous, David Lynx, pourquoi vous êtes devenu musicien? Avant de devenir chanteur, vous étiez musicien, batterie, piano,
non,
flûte.
Mais c'était toujours clair que c'était le chant.
Ouais.
Et j'ai l'impression que le chant... J'ai dit que j'ai eu une enfance assez intense, pour le dire gentiment. J'avais l'impression que j'ai gardé ça longtemps pour moi. Bien si dans ma chambre, je travaillais avec Edith de Ella Fitzgerald parfois 5-6 heures d'affilée parce que j'avais la voix haute, donc je pouvais chanter dans son registre. Et j'ai l'impression que j'ai fortifié le chant en passant par la batterie, le chant et tout ça. Et j'ai montré ça à très peu de gens, parce que je voulais pas qu'on touche à ça, qu'on détruise ça. C'était quelque chose, un domaine qui était dans lequel je voulais pas être découragé parce que j'avais pas d'exemple européen. Donc c'était quelque chose, ça sonne un peu bizarre, mais c'est vrai. À l'époque, il y avait pas de chanteur de jazz européen qui était profilé comme je peux l'être un peu aujourd'hui. Donc, ne pas ayant d'exemple et de grands rêves, c'était quelque chose à protéger et surtout à construire. Parce que puisqu'il n'y avait pas de référence pour des chanteurs de jazz européens, il fallait aussi que je construise cette référence. En même temps, je rêvais d'être un écrivain aussi. Donc, quand j'étais chez Baldwin, je me rappelle, j'étais jeune, j'essayais d'écrire dans du cinquième zone du style de Baldwin, quoi, tu vois, parce que c'était quelqu'un que j'adorais. Donc, et comme Baldwin a voulu être acteur, et j'ai l'impression que les mentors, parfois les meilleurs mentors, c'est pas ceux qui font la même chose que vous. Le mentor de Baldwin, c'était un peintre qui s'appelait Buford Delaney. Moi, mon mentor, c'était un écrivain. C'était bien que j'habitais aussi chez Kenny Clarke. Kenny Clarke a plutôt été comme un genre de papa pour moi. Mais le mentor qui m'a vraiment mis sur la rail de la légitimité que j'attendais que quelqu'un me donne. Parce que ce qui est qui peut être très violent, c'est quand on est blanc et on vit dans les deux mondes. Dans les deux mondes on se rend compte quand on vit dans les deux mondes à quel point c'est séparé. Parce que moi, les blancs étaient très méfiants de mon comportement aussi parce qu'il était très influencé par une éducation afro-américaine. Et vice versa, il y avait de la méfiance aussi. Donc il y avait ce lieu où je voulais, pour me trouver et appartenir, je sais même pas si ce mot existe dans mon vocabulaire, mais où essayer d'appartenir, il fallait que je trouve un truc qui était extrêmement ancré ou qui avait une espèce de colonne vertébrale très forte. Et j'ai l'impression que je suis peut-être allé, quand je regarde ça maintenant, je suis peut-être allé à la recherche de cette colonne vertébrale chez Baldwin. Et peut-être un peu chez Kenny Clarke aussi, et voilà. Avec un amour énorme de la famille Baldwin aussi, la mère de Baldwin qui était comme une grand-mère pour moi aussi. Et là, on voit la force de Baldwin, parce qu'il vient d'une famille où l'amour et les valeurs de l'amour sont tellement, jusqu'à ce jour, même ses arrière-nièces aujourd'hui, ils sont grandis dans une rigueur d'amour, mais un amour au sens large du terme.
Dans votre dernier album, David Lynx, vous rendez aussi hommage à l'écrivaine Toni Morrison. Est-ce que la littérature vous inspire quand vous écrivez et quand vous composez vos morceaux?
Non, mais c'est fou parce que moi, je compose après avoir lu un livre très fort, par exemple. Arundhati Roy, c'est aussi une des... Et Toni Morrison aussi, c'est une histoire drôle parce que elle était très proche de Baldwin. Toni Morrison, c'était la meilleure amie de Gloria, la sœur de Baldwin, qui est comme ma maman. Gloria, c'est comme ma deuxième maman. Et le fils de Toni Morrison, qui est décédé il y a 10 ans, qui avait mon âge, c'était un de mes meilleurs amis. Donc, on était proches. On passait parfois Noël chez Toni. On se rend compte l'ampleur de ces gens-là, bien que je me rende compte, mais quand on vit en famille, on vit pas dans ce que le monde pense d'eux. Donc, quand ces gens partent un à un, on dit, mon Dieu, c'était tellement énorme. Et dans la vie, c'était juste c'était des personnes avec une énorme humilité, mais aussi une intransigeance ou intolérance envers ceux qui refusent une humilité. Mais c'est vrai que la littérature m'inspire carrément à composer. à écrire aussi, mais surtout à composer. Si je peux lire un passage de n'importe quel écrivain ou écrivaine que j'adore, et ça m'inspire littéralement la partition une demi-heure après.
There's not one language old enough to speak about the fear that have made us weak. We've come to know that she's not her name. Lives by her own rules, for she will not be tamed. She's never giving you the cold shoulder, long as you don't blame the beholder. Evil's dressed up and needs decorum. Goodness needs nothing, clear of a foreign scenes. Rivers have.
Et vous voyagez aussi de langue en langue, comme on peut l'entendre. Deuxième extrait de votre dernier album, Skin in the Game.
J'ai grandi en trois langues. J'ai grandi en anglais, en flamand, ce qui est le néerlandais, et le français. Mais aussi, j'ai fait quelques disques en français aussi. Et je défends aussi quand même une pensée de le fait que je suis né ici. Il y a rien de moins vendable que l'idée d'un chanteur de jazz blanc européen.
Ouais.
donc il fallait que je rende ça une réalité pour moi. Si on me dit qu'on peut tu peux pas faire ça, ou ça n'existe pas, alors du coup je vais le prouver à moi-même que c'est possible. Et c'est la même chose avec les langues. Je donne parfois des masterclass, ben, un peu partout dans le monde. Mais j'ai parfois en France des gens qui me disent, oui, je chante en anglais parce que en français, il y a plus de consonnes et ça swing pas. Et il y a rien de moins vrai. C'est qu'on swing ou on ne swing pas. C'est pas la langue qui est en faute.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous nous faites swinguer, David Lynx. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et je recommande vivement ce disque qui sort chez Crystal Records. Bonne journée à vous, David Lynx.
Merci beaucoup.
Walk you straight to her zone.